Gardez une peau bien hydratée devant C'est à vous avec la crème visage Dermasens et son actif breveté issu de la graine de sapin blanc des Vosges.
C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir Babette.
C'est à vous, spécial présidentiel ce soir avec la candidate déclarée il y a 9 jours seulement, Christiane Taubira, répondra aux questions de toute l'équipe, mais aussi à celles des téléspectateurs de C'est à vous. Christiane Taubira, candidate à l'élection présidentielle. Isabelle Huppert, candidate à sa propre réélection. Maire d'une grande ville de Seine-Saint-Denis, pressentie pour devenir ministre. C'est le scénario des promesses qui sort mercredi prochain au cinéma. C'est ce qui s'appelle avoir le sens du timing. Isabelle Huppert est notre invitée juste après 20h autour du dîner préparé ce soir par un jeune chef breton qui est monté à Paris, comme on dit, Camille Saint-Meleu, qui est chef de la Villa 9-3 à Montreuil. Bonsoir, chère Camille.
Bonsoir.
Bienvenue aux commandes des cuisines de C'est à vous. Un menu végétarien ce soir.
Un menu végétarien après le week-end, ouais. Donc on est vraiment sur un plat un peu détox, donc on est sur un chou qui vient d'Île-de-France avec une association de l'algue, donc le wakame, et juste rafraîchi avec un peu de piment vert.
Vous avez eu des informations sur ce que mangeaient Patrick, Mohamed et Mathieu ce week-end pour proposer un menu détox, c'est ça?
On m'a dit oui.
Et ben voilà, on a un chef bien informé ce soir aux cuisines de C'est à vous. Merci beaucoup, à tout
c'est
à l'heure.
C'est moi, à tout à l'heure.
C'est un mouvement historique et massif. Jamais dans une élection présidentielle, des citoyens n'avaient décidé de s'organiser eux-mêmes pour choisir leur candidat. Le lyrisme de Christiane Taubira, qui se félicite hier des 467 000 inscrits à la primaire populaire. Le vote s'ouvre jeudi jusqu'à dimanche. Une initiative effectivement inédite, mais très contestée.
Primaire populaire, qui est l'espace démocratique qui nous donne cette nouvelle chance, cette dernière chance d'un rassemblement de la gauche.
Nous n'avons rien à voir avec ça.
J'ai jamais voulu participer à ça.
Je crois qu'on ne nous demande pas notre avis.
Je me trouve de force dans un scrutin dont je ne veux pas.
Je leur ai demandé plusieurs fois de retirer mon nom.
Nous allons tous être soumis au vote.
C'est un peu comme cette ancienne publicité hein, pour cette boisson qui avait l'aspect, la couleur de l'alcool, mais ce n'était pas de l'alcool. Vous vous souvenez, ce vote, c'est un peu pareil. Ça ressemble à une primaire populaire, mais ce n'est pas une primaire et elle n'est pas populaire.
Si tu rajoutes de la paille et quelques bouses, t'es quand même plus près d'un concours de charolaises au Salon de l'Agriculture que d'un processus démocratique.
Christiane Taubira est ce soir notre invitée. Bonsoir Christiane Taubira, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Merci de votre présence ce soir. Alors que vous avez salué hier un mouvement historique massif, c'est près de 500 000 inscrits à la primaire populaire que vous êtes la seule à soutenir et à promouvoir. Vous en attendez quoi de cette primaire? Elle peut vraiment tout changer, forcer l'union, débloquer la situation, créer un électrochoc?
Elle est incontestablement le dernier espace où nous avons une opportunité d'avoir une candidate ou un candidat qui sort d'une investiture démocratique, citoyenne, et qui répond à la demande exprimée par toutes et tous à un moment ou à un autre, exprimée par chaque candidate et chaque candidat de rassemblement de la gauche pour éviter de faire l'impasse sur cette échéance.
Mais quelle en serait sa légitimité de cette primaire populaire?
C'est un processus démocratique, en quoi ne serait-il pas légitime?
C'est-à-dire que c'est une primaire, mais qui n'est pas une primaire, puisqu'il n'y a pas eu de campagne, il n'y a pas eu de vote, et ce n'est pas à proprement parler un vote, c'est un vote par valeur, c'est-à-dire qu'on classe les candidats, leur programme en fonction de mentions. Ce n'est pas exactement un vote ni une primaire, comme on a l'habitude d'en voir organisé.
En tout cas, c'est un processus démocratique qui a été mis en place à l'initiative de citoyennes et de citoyens. On peut toujours contester les mécanismes. On peut contester tous les mécanismes
des candidats qui ne veulent pas en être.
Oui, toute la journée, enfin tous les jours, il y a des instituts de sondage à but lucratif qui sondent des gens, sont leur avis.
Donc c'est un sondage.
C'est une sorte de sondage.
elle a, c'est un vote, c'est plus qu'un sondage, c'est un vote. Ce sont des citoyennes et des citoyens qui s'inscrivent et qui vont voter, qui vont choisir, qui vont désigner et qui s'inscrivent sans ambiguïté, c'est-à-dire qui s'inscrivent et ils se sont inscrits dans une volonté de rassemblement de la gauche. C'est une primaire, j'ai dit que c'était un référendum d'initiative citoyenne, sur lequel, je crois, pratiquement tous les candidates et candidats de gauche se sont engagés. C'est limité à la gauche, c'est sa limite, alors qu'un RIC, en général, est plus général. Mais voilà, c'est le jeu, les règles du jeu sont claires. En tout état de cause, nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans une démocratie.
Qui a sélectionné les candidats?
Nous avons... parce qu'il y a eu un processus antérieur.
Pourquoi il n'y a pas Fabien Roussel? Pourquoi il n'y a pas Philippe Poutou, par exemple?
Je crois que vous avez interrogé les organisatrices organisateur de la primaire populaire. Moi, je veux bien que depuis 2 semaines, ce processus démocratique ait tous les vices de la terre. Je constate simplement que là, nous avons un processus démocratique. Nous avons des candidates et des candidats qui, à un moment ou à un autre, ont dit qu'il fallait rassembler la gauche. Nous avons constaté à travers le temps que chacun reste dans son couloir et que objectivement, cela revient à faire l'impasse sur cette élection présidentielle. Après, s'il y a des contestations, c'est ce que je dis, nous sommes dans une démocratie, heureusement, il y a des institutions. S'il y a des contestations, il faudra les saisir et contester. Mais pour ma part, je salue ce processus démocratique. Il a été mis en place et construit sur plus d'une année. Et là, il offre aux candidates et aux candidats de gauche et aux citoyens et aux citoyens. Vous avez rappelé, vous, près de 500 000 personnes qui se sont inscrites. C'est quand même l'expression d'un désir de rassemblement. Et ce n'est pas seulement un désir. On agit, on s'avance, on prend le risque de venir s'impliquer.
Si vous emportez cette primaire, ça changera quoi la situation actuelle? Puisque ni Jean-Luc Mélenchon, ni Anne Hidalgo, ni Yannick Jadot n'y accordent de la valeur. Ce sera donc une candidature de plus, puisque les 3 autres ne reconnaîtront pas votre légitimité ou ne se rangeront pas derrière votre candidature.
Ça changera d'abord qu'une investiture citoyenne
aura du
qui
poids.
Qui aura quand même le poids.
Et vous le ferez valoir.
Un poids numériquement supérieur à la totalité cumulée des électrices et électeurs des partis de gauche.
Tout de même. Et ça, vous le ferez valoir. C'est-à-dire que vous direz.
D'abord, c'est incontestablement une légitimité citoyenne. Qu'on fasse de l'arithmétique ou de la politique, c'est un espace, c'est une voie de sortie. Et celles et ceux qui ne veulent pas le reconnaître assumeront simplement. Pour ma part, je dis très clairement que je reconnaissais les règles et le résultat de cette primaire. C'est-à-dire que je n'y ai pas mis de conditions. Je n'ai pas dit j'y vais, mais enfin je vérifie que... Non, je dis que j'en reconnais à la fois les règles et le résultat, et je le fais par anticipation. Voilà, donc moi je suis cohérente avec le fait que je pense aussi qu'il faut que la gauche se rassemble, sinon nous passons le tour. Mais la question de passer le tour de la gauche, ça n'est pas la fin du monde. Le problème, c'est que nous assumons clairement, à la face des personnes qui sont en difficulté dans cette société, nous assumons clairement de n'avoir pas fait les efforts suffisants pour nous dépasser, pour éviter de gérer nos affinités personnelles, pour faire l'effort nécessaire pour que nous puissions changer les résultats. Enfin, nous voyons ce qui est sorti de ce quinquennat. Les chiffres, les statistiques montrent bien l'aggravation de la situation en matière d'inégalité sociale, une explosion des grosses richesses, des injustices qui s'aggravent, une façon de gouverner qui agresse les gens. Bon, voilà, donc chacun assumera le fait de n'avoir pas fait les efforts nécessaires pour que nous ne passions pas, nous, notre tour en termes de capacité d'agir pour la vie des gens.
Et si vous vous perdez, si vous êtes battu, vous retirez votre candidature au profit du vainqueur, quel qu'il soit, sans condition?
Alors, d'abord, je ne dirais pas que je suis battue. Moi, j'accepte... mais j'accepte le risque démocratique. Donc, effectivement, si je ne suis pas retenue, puisque moi, je suis dans une logique de rassemblement, évidemment, il est évident que je n'ai plus de candidature à l'élection présidentielle en tant que candidate à l'élection présidentielle. Cependant, parce que justement je crois le rassemblement possible, oui, je rallierai la personne qui aura été désignée. Alors, la seule condition possible, quelle qu'elle soit, si on accepte le verdict démocratique, on l'accepte. Et la politique, ça demande des efforts, surtout lorsqu'on prétend au rassemblement. Donc ça veut dire que oui, je suis prête à faire campagne. Oui, je suis prête. Alors après, ça dépendra évidemment de la personne qui sort. Si elle décide qu'elle ne veut voir personne, mais je vais vous dire une chose, je trouverai le moyen de faire campagne. Je trouverai le moyen de faire campagne. Parce que faire campagne, c'est aussi faire en sorte que des idées soient dans le débat public. C'est aussi donner, ouvrir un espace pour que les énergies, les intelligences, les gens se mobilisent. C'est aussi faire en sorte que la voix, la mobilisation citoyenne, que le désir des électrices, des électeurs, des citoyennes, des citoyens, que celui-là trouve un débouché. Moi, je suis persuadée que ce débouché-là, c'est la gauche qui peut le faire. C'est une candidature de rassemblement. Si jamais la personne qui en sort dit qu'elle ne veut rien entendre de personne, parce qu'en plus, je vois mal quelqu'un refuser cette investiture citoyenne, qui statistiquement, numériquement, est plus importante que toutes les autres. Donc, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort de travailler avec les autres. Mais vous regardez les programmes, il y a assez peu d'incompatibilité.
Justement, les programmes, le vôtre est encore en ébauche, notamment sur les questions de sécurité, mais d'autres domaines, comme la jeunesse.
Je ne sais pas ce qui vous permet de dire ça. Je vous laisse finir votre phrase, mais je ne sais pas ce qui vous permet de dire ça.
Oh, par exemple, dans le journal du dimanche, c'est exactement ce que vous exprimiez, que pour l'instant, vous n'aviez pas encore fait des propositions sur la sécurité, que vous alliez vous exprimer dans les jours qui venaient.
Ce que j'ai dit, voilà. C'est-à-dire que je scanne ma campagne et mes propositions, je les scanne à des étapes parce que je veux qu'elles soient intelligibles, qu'elles soient audibles. Donc, par exemple, je pars à Grenoble demain sur la thématique du logement, je vais dire un certain nombre de choses. Donc voilà, je veux absolument, j'ai pas envie de présenter un catalogue. C'est pas d'aujourd'hui que je suis dans la politique, c'est pas d'aujourd'hui que je travaille sur ces sujets, c'est pas d'aujourd'hui que je lis et que je fréquente des personnes, c'est pas d'aujourd'hui que je m'informe sur les analyses, sur les chiffres, etc. Donc voilà, c'est pas en train de découvrir tous les sujets.
Mais la jeunesse, vous avez déjà fait des propositions et c'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Notre invitée Christiane Taubira voudrait consacrer 30 milliards d'euros par an à la jeunesse, mais elle n'est pas la seule candidate à chouchouter les jeunes. Vous dites que c'est une campagne qui donne envie d'avoir 18 ans.
Et même 16 ans, puisqu'au moins 3 candidats, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo veulent abaisser le droit de vote à 16 ans. Mais ce que beaucoup proposent, ce sont des chèques aux jeunes, des revenus garantis. Avec vous, Christiane Taubira, c'est 800 euros par mois pour tous les étudiants pendant 5 ans. Le coût annuel, vous l'avez chiffré, 24 milliards d'euros. Mais vous venez d'être coiffé aujourd'hui par le communiste Fabien Roussel. 850 euros mensuels de revenus étudiants, avec en plus dans la corbeille la couverture santé à 100%, le permis de conduire et les transports gratuits.
Qui dit mieux ?
Jean-Luc Mélenchon, 1063 euros d'allocation autonomie pour tous les jeunes à l'université.
Qui dit encore mieux ?
Anne Hidalgo, en plus d'un minimum jeunesse de 565 euros, comme le RSA, c'est la même proposition que Yannick Jadot, la candidate socialiste ferait un chèque de 5000 euros à tous les jeunes le jour de leurs 18 ans. Une dotation universelle sans condition de ressources, donc, pour, dit-elle, leur donner les moyens de leur émancipation. Coûte cette mesure 8 milliards d'euros. Je n'oublie pas Emmanuel Macron, même s'il n'est pas encore candidat. Le président a annoncé il y a quelques mois un contrat d'engagement jeune qui proposera aux moins de 25 ans sans emploi une allocation allant jusqu'à 500 euros par mois en échange de 15 à 20 heures par semaine de formation ou d'accompagnement. Entrée en vigueur de cette mesure le 1er mars à un peu plus d'un mois du premier tour.
Quelqu'un dit encore mieux ?
Marine Le Pen. Alors là, il y a du lourd au pied du sapin. La candidate du Rassemblement National entend supprimer l'impôt sur le revenu de tous les jeunes de moins de 30 ans, ce qui vaudrait d'ailleurs pour le président du RN, Jordan Bardella, 26 ans. Et ceux qui créent leur boîte seraient non seulement exonérés d'impôts sur les sociétés, mais ils recevraient en plus une dotation publique équivalente à leur propre apport. Plus tu es pourvu, plus tu es aidé. Tu as 1000 euros pour acheter un food truck, tu touches 1000 euros. Papa te donne 100 000 euros pour monter ton entreprise. L'État double la mise et te fait un chèque de 100 000 euros. C'est Noël. C'est une mesure que Marine Le Pen avait avancée le 1er mai dernier, mais qu'elle n'a pas détaillée depuis.
Les jeunes sont convoités par tous les candidats.
Oui, c'est un enjeu électoral important. C'est la classe d'âge qui s'abstient le plus. Un jeune de moins de 25 ans sur deux n'a pas voté en 2017. La question est de savoir si leur promettre monts et merveilles va réellement leur donner envie.
C'est monts et merveilles que vous promettez aux jeunes, à la jeunesse de France, Christiane Taubira ?
Non, je ne promets pas de monts et merveilles. Et puis, je ne viens pas avec des chèques et des chiffres parce que j'ai beaucoup de respect pour la jeunesse. Non seulement j'ai beaucoup de respect, mais j'ai beaucoup d'espoir. dans la jeunesse. Simplement parce que c'est notre avenir. Alors, ça paraît un peu banal de le dire ainsi, mais j'ai la préoccupation de savoir comment on crée les conditions pour que cette jeunesse soit préparée à l'état du monde. Donc, dans ma proposition, enfin, dans mes propositions, parce qu'il y a trois grands axes dans ces propositions, il y a effectivement ces 800 euros pour que les jeunes se consacrent à leurs études. Actuellement, nous avons moins de la moitié d'une classe d'âge qui fait des études supérieures, donc qui fait des études après le baccalauréat. Et nous voyons bien les résultats, puisque ça fait plusieurs années que c'est ainsi. La France perd des places dans la compétition internationale. Donc la question pour moi, c'est de savoir comment on crée les conditions pour que les jeunes soient en mesure d'affronter le monde. C'est un monde qui change, c'est un monde qui est plein de défis et c'est un monde qui est exigeant dans la mesure où il faut de plus en plus de la souplesse intellectuelle, de la réactivité, de l'inventivité. Il faut aussi un certain nombre d'autres de qualités, de l'audace, etc. Donc il faut que pendant leurs études, ils puissent s'y consacrer. Et ces deux dernières années, la pandémie nous a montré à quel point les jeunes vivent dans la précarité. Donc lorsqu'on est occupé à se nourrir, à se loger. Mmh. Vous avez des réseaux d'habitants qui sont très, très hospitaliers, qui accueillent des jeunes pour un mois, pour deux mois, pour trois mois. D'autres étudiantes et étudiants qui prennent sur eux-mêmes pour aider d'autres étudiants. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne se consacrent pas complètement à leurs études.
Et votre mesure, elle vaut pour tout le monde, hein, pas seulement pour ceux qui travaillent. C'est une mesure universelle.
Pour les étudiants. Et puis, il y a des jeunes qui décrochent très tôt. Et ceux-là, en fait, sont largués en général. Ils ne sont même pas sous les radars, dans les radars. Pour celles-là et ceux-là, je pense qu'il faut une deuxième chance. On ne peut pas accepter, dans un pays comme la France, on ne peut pas accepter qu'à 18 ans, 20 ans, 22 ans, votre vie soit fichue parce que vous avez été mal orienté en collège, parce que vous avez décroché, parce que vous avez affronté plusieurs difficultés. Donc il faut une deuxième chance, pour certaines, une troisième chance. Et puis, donc, les accompagner. Il faut aussi que le RSA soit possible à 18 ans. Parce que moi, ma logique, ce n'est pas flatter les jeunes. Ma logique, c'est d'abord les préparer à l'avenir. Mais c'est aussi faire en sorte qu'au moment où ils acquièrent leur majorité civique, ils acquièrent également une majorité sociale. Donc, il faut créer ces conditions-là. Et puis, celles et ceux qui ont un autre tempérament et qui veulent créer... Alors, moi, j'ai une proposition tout à fait raisonnable. C'est 20 000 euros pour un projet. Ça s'appelle un capital de projet. Et c'est vraiment un jeune qui sera adossé à des tutorats, à des incubateurs, qui sera accompagné, qui va mettre le pied vraiment dans la société et dans la vie associative, si c'est un projet associatif, économique, si c'est le cas. Donc voilà. Donc voilà, moi, je promets pas... En plus, je leur dis, j'ai présenté ce programme devant les étudiants de Sciences Po Lille. Et je leur ai dit, soyez conscients que c'est un effort de génération, c'est un effort de solidarité de génération.
Parce que ce sera financé par les impôts, par exemple, par une augmentation des impôts pour tous les Français.
Oui, alors c'est tout à fait très clairement fléché, tout à fait identifié, parce que la question aujourd'hui, c'est vraiment de fiscaliser le capital et des très grosses fortunes. Donc je l'ai dit très précisément, cet argent, il est possible, en prenant 1%, c'est quand même extrêmement raisonnable, 1% sur des patrimoines
de plus de 10 millions d'euros.
Voilà, et 2% à partir de 100 millions d'euros.
Le pouvoir d'achat, il est au cœur des préoccupations des Français. Le prix des carburants s'envole et pèse sur leur budget. Vous faites quoi si vous êtes au pouvoir? Le prix de l'essence, vous le bloquez comme le propose Jean-Luc Mélenchon,
par exemple. Alors, j'ai expliqué que, effectivement, la question du pouvoir d'achat est une question essentielle. Parce que ce sont les plus modestes qui paient le plus lourdement les effets de la crise, les difficultés, ce sont elles et eux. Et pourtant, ce sont les plus vertueux. Donc, oui, il faut des mesures de pouvoir d'achat. Oui, il faut bloquer les prix. Il faut bloquer les prix, le temps de les contenir, le temps de permettre aux personnes, d'abord, de vivre. Parce que les gens qui font le plein de carburant sont souvent des personnes qui n'ont pas d'autre choix, qui n'ont pas d'alternative. Et il y a la question, évidemment, des mobilités. Mais ce que je veux dire, c'est que mon programme est vraiment très articulé sur la justice environnementale et la justice sociale. C'est-à-dire qu'il y a une urgence absolument incontestable, c'est le bouleversement climatique et les pertes de biodiversité. Ça, c'est l'urgence. Et puis, on se rend compte d'une chose, c'est qu'en fait, les personnes les plus modestes, les personnes qui ont les revenus les plus faibles, sont les personnes les plus vertueuses. C'est-à-dire que sont elles qui contribuent le moins à la pollution. Ce sont des personnes qui ont déjà atteint le niveau d'ambition indiqué par la COP21. Donc, il n'y a pas de raison de continuer à pénaliser ces personnes-là. Donc, il faut effectivement assurer le pouvoir d'achat. Il faut mettre un terme au fait que dans ce pays, il y ait des salaires. Une personne sur six a un salaire inférieur au SMIC.
ici, dans ce grand pays. Il faut effectivement revaloriser également le SMIC, et cela est parfaitement possible. Cela est parfaitement possible. Il faut aussi de la redistribution. On a vu exploser les dividendes des très grandes fortunes, des multimillionnaires. Ce sont des personnes qui profitent des services publics comme tout le monde. Ce sont des personnes qui profitent de la qualité de vie dans ce pays. Ce sont des personnes qui doivent contribuer. La France ne peut pas continuer à être un paradis fiscal pour les très, très grandes fortunes.
Je reviens sur les jeunes. Changer la vie des jeunes, c'est ce que promettait François Hollande en 2012. Il demandait même à être évalué là-dessus.
Est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012, je demande à être évalué sur ce seul engagement, sur cette seule vérité, sur cette seule promesse. Changer leur vie serait pour moi la plus grande des fiertés.
Fondation de sa campagne, il a été élu et a fait de vous la garde des Sceaux. Et même si vous avez fini par le quitter, à la mise en place de la déchéance de la nationalité, il parle toujours de vous avec beaucoup de sympathie dans son livre « Affronter ». Il parle de votre méthode de travail qui a souvent déconcerté son entourage, active la nuit plus que le jour, allergique à toute contrainte administrative, intolérante face à toute lenteur de procédure, c'est ce qu'il écrit. Interrogé sur votre éventuelle candidature, mais c'était avant que vous vous prononciez. Il répondait que vous aviez été une ministre exemplaire, mais que pour gagner une candidature, il fallait au préalable une grande force politique et une ligne politique. Là, vous n'êtes pas d'accord.
Non, je suis d'accord sur tout, surtout sur les compliments. Pensez donc.
Oui, bien sûr.
Alors, mais dans la journée, malheureusement, j'étais obligée d'être très active, même si j'en avais pas envie. J'étais obligée d'être très active. Vous pouviez vérifier mon emploi du temps en journée. C'était très. Mais effectivement, la nuit m'appartient. Moi je comprends ça, mais notre société est en train de changer, il faut accepter. Moi je comprends aussi le dérangement que provoque la primaire populaire, je comprends parfaitement, parce qu'on peut conceptuellement dire oui, la démocratie participative. Ségolène Royal en 2007, dans sa campagne, elle parlait de la démocratie participative. Il y a eu une expérience de démocratie participative dans la mesure où il y a eu un afflux de personnes au PS, il y a des personnes qui sont venues voter à la primaire et qui ont participé à sa campagne un peu en dehors du cadre officiel du Parti Socialiste. Donc voilà, elle avait dit, elle avait perçu, elle avait vu, mais ça n'a pas été traduit. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait en sorte que dans les institutions respire un peu cette volonté populaire qui s'exprime de façon différente.
En tout cas, quand quand il est interrogé hier, François Hollande, sur sa propre candidature par des lycéens, c'est à son tour de déconcerter tout le monde.
Pourquoi vous ne vous représentez pas aux élections présidentielles ?
Bah pour l'instant, je ne suis pas candidat, tu as remarqué. Mais comme ça ne va pas bien, c'est vrai que... On pourrait se dire, est-ce qu'une candidature de plus serait utile ? Je ne sais pas. Je ne pense pas, d'ailleurs. J'ai les mêmes idées qu'avant, donc je continue à les défendre. Et un ancien président peut très bien refaire de la politique et c'est arrivé, être candidat à l'élection présidentielle.
Est-ce que vous allez prendre une décision bientôt ? Je pose la question.
Ben, je vais en tout cas prendre la parole bientôt.
Bah, ça a surpris tout le monde, mais en fait, il semble hésiter comme vous avez pu hésiter. C'est la même démarche. Quand il va prendre la parole, si c'était pour se représenter, vous le comprendriez ?
Je ne fonctionne pas comme ça, pardon. Hein, j'ai l'air déconcerté, mais c'est que je ne fonctionne pas comme ça.
Mais vous êtes déconcerté, là, de cette déclaration ?
Ça vous a troublé ?
Il en faut quand même beaucoup plus pour me troubler, monsieur Cohen.
C'est-à-dire que vous ne le prenez pas au sérieux ?
Mais non, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une part de plaisanterie, mais il n'y a pas que de la plaisanterie, je ne sais pas. Je ne sais pas comment commenter ça, je n'ai absolument aucune envie de commenter ça. Moi, ma préoccupation, c'est vraiment l'état dans lequel la société française se trouve après le quinquennat de M. Macron et qu'un quinquennat supplémentaire. Moi, je me sens responsable de ne pas faire tout ce qui est possible pour éviter cela, c'est tout. Bon, alors maintenant, est-ce que c'est 10 candidatures de plus ou c'est 10 de moins ? C'est pas de l'arithmétique, c'est de la politique. Mmh. Est-ce que nous sommes capables ? Vous me demandiez ce que peut changer la primaire populaire, mais déjà une dynamique. Et c'est quand même ce qui manque à gauche depuis plusieurs mois. C'est dynamique, c'est-à-dire
il n'y a pas une dynamique après votre lancée dans la campagne, il n'y a pas une dynamique dans les sondages, il n'y a pas une percée que vous auriez pu espérer.
Mais je ne suis pas venue en tant que sauveuse. Moi, j'ai essayé une ou deux choses. J'essaie une ou deux choses. Et puis après, face à l'impossibilité de dénouer les choses, dans la mesure où je reste persuadée que le rassemblement est nécessaire. En tout cas, moi, ce qui fait la différence, sans doute fondamentale, c'est que je ne fais pas l'impasse sur cette échéance. Voilà. Je n'arrive pas à me convaincre que on va voir ça en 2027. Je n'arrive pas à me convaincre de ça. Et je n'arrive pas à regarder les gens en face et à leur dire, bon, c'est quand même pas la fin du monde, hein, dans 5 ans, c'est fini. Je n'y arrive pas, c'est tout. Donc, je fais ma part, je donne toute ma part avec tous les risques que je suis capable de prendre au plus haut niveau de responsabilité que je puisse faire. Voilà, mais c'est tout. Moi, je ne joue rien de personnel. Je ne suis pas en quête de prestige, je n'ai pas de démonstration à faire, je ne gère pas d'affinité particulière, ni d'aversion d'ailleurs, ni d'aversion.
Oui, donc c'est quoi le risque que vous prenez finalement? Il n'y en a pas vraiment.
Le risque, c'est d'abord de me faire taper sur la tête quand même, il y en a qui ne s'en privent pas depuis quelque temps. Mais oui, le risque d'arrêter une vie qui était devenue un peu beaucoup plus tranquille. Voilà, mais ce sont des risques dérisoires. Ce sont des risques dérisoires par rapport à la situation. Moi, j'appartiens au monde, j'appartiens à cette société française. J'ai des préoccupations sur l'état de l'Europe. J'ai un souci du présent et de l'avenir. Je ne peux pas me contenter du fait que des personnes... En plus, les gens se battent. Voyez-vous, les gens se battent. Si nous étions dans un monde où les gens étaient complètement devenus fatalistes, qu'ils étaient résignés, qu'ils ne faisaient plus d'efforts de leur côté, je pourrais dire, bon, moi, j'ai construit ma vie, je la vis. Mais les gens se battent avec désespoir, avec joie, avec espoir, avec rage. Mais les gens se battent, ils se battent pour leur salaire, ils se battent pour le climat, ils se battent contre les violences sexistes et sexuelles. Les gens se battent. Donc,
autour de valeurs aussi que vous défendez.
Mais bien sûr.
Un mot sur ces valeurs avec Patrick.
Oui, samedi, dans une interview à Libération, vous posez, comme à chaque interview, la question de votre légitimité à gauche ou de votre singularité. Et vous mettiez en avant vos 30 ans de vie politique pour souligner cette légitimité. Ce que vous appelez votre assise. Beaucoup pourraient être envieux de mon assise. Alors je vous propose un petit flashback parce que vos débuts en politique, ils ont été plutôt en opposition à la gauche socialiste. Première campagne législative en 93 à Cayenne, vous vous dressez contre les socialistes guyanais au pouvoir, à la région et au département. Vous êtes élu, vous arrivez à l'Assemblée, vous approuvez la déclaration de politique générale d'Édouard Balladur avec la droite sur les lois Pasqua contre l'immigration et de réformes de code de nationalité qui font hurler la gauche et qui la font défiler dans la rue, vous vous abstenez. Et l'année d'après, on vous retrouve numéro 4 de la liste Bernard Tapie aux européennes, énergie radicale, qui avait pour but d'affaiblir le PS et de flinguer Michel Rocard, objectif réussi. Alors ma question, est-ce que tout cela était des erreurs d'aiguillage ou bien avez-vous forgé vos convictions de gauche petit à petit dans le combat politique?
Ah non, certainement pas, certainement pas. Alors si vous me donnez le temps de répondre à tout ça, je veux bien, je veux bien. Je vois bien que je porte le passif de toutes les querelles de la gauche nationale, je veux bien, mais alors je vais vous expliquer. Effectivement, j'ai battu le candidat des socialistes en Guyane parce que c'était un parti hégémonique qui contrôlait tout, qui avait installé un système clientéliste et qui effectivement avait étranglé la société guyanaise. Donc moi je vais aux élections pour la première fois à la demande des Guyanais. Donc ce sont des pétitions qui me font, au bout de 4 mois de résistance, céder et me présenter à l'élection. Et organiser la victoire. Parce que je leur dis, les gens me disent, mais allez-y pour nous représenter, on a besoin de dignité, etc. Et je leur dis, non, moi si je veux une élection, je viens pour gagner. Et je m'organise pour gagner, effectivement. C'est-à-dire que j'organise toutes ces forces populaires, citoyennes. Vous voyez qu'il y a très très longtemps que je suis très à l'aise avec les initiatives citoyennes. Donc je les organise et je gagne cette élection.
Vos débuts à l'Assemblée nationale.
Je vote effectivement la déclaration. Comment ça s'appelle encore? Déclaration
générale.
De politique générale d'Édouard Balladur, parce que, d'abord, j'arrive ici, évidemment, je ne vous raconte pas l'accueil que me réserve le Parti socialiste français. Je vote cette politique de déclaration parce que Mitterrand est président de la France. Monsieur Balladur a été désigné par Monsieur Mitterrand. J'écoute quand même cette déclaration de politique générale parce qu'en fait, en Guyane, la décision que nous prenons à Walwari, le parti politique que j'ai créé, la décision que nous prenons, c'est de voter cette déclaration de politique générale. Donc je l'écoute, rien ne me choque spécialement, je la vote. Je vais vous dire que je réalise après, c'est pas la gauche qui me fait réaliser que c'est une erreur politique. C'est la droite. Parce que la droite interprète, je comprends à ce moment-là, qu'un vote de déclaration de politique générale,
c'est un soutien.
Voilà, c'est pas juste le contenu du discours, c'est un soutien politique. Donc j'ai toute une cour qui se met au machin, c'est Philippe Séguin qui est président de l'Assemblée nationale, qui m'invite à l'hôtel de l'AC pour une séance de travail, visiter l'hôtel de l'AC et me parler de l'Assemblée nationale, me proposer d'ailleurs une meilleure place dans l'hémicycle. C'est M. Juppé qui est ministre des Affaires étrangères qui me propose de venir parler de la Guyane dans son environnement géopolitique. Et ce sont ces signaux-là qui me font comprendre que c'est une erreur politique. Donc je refuse tout cela, même si intellectuellement ça m'intéresse.
Erreur d'aiguillage, je dis.
Non, ce n'est pas une erreur d'aiguillage, monsieur. C'est une erreur d'interprétation au sens où j'ai compris à ce moment-là qu'effectivement, voter une déclaration de politique générale, ça ne veut pas dire d'ailleurs être d'accord avec le contenu. Ça veut dire donner un signal politique. Ça veut dire donner un signal politique. Donc, mais vous voyez bien comment ça fonctionne. Donc, ne faites pas comme si. Donc, moi, je constate cette erreur et je la rectifie par mon attitude, qui est une attitude très claire où je n'accepte aucune de ces propositions de la droite. Ça ne veut pas dire que la gauche soit plus accueillante. D'ailleurs, je l'ai dit à l'époque, notamment à Julien Drey, je lui ai dit, vous n'êtes pas cordiaux, vous n'êtes pas accueillants, vous n'êtes pas hospitaliers. Je suis arrivée dans cet hémicycle. Moi, c'est Henri Emmanuelli qui est venu me voir un jour et qui m'a dit « Mais toi, on t'écoute parler, là, tu es de gauche. » C'est Henri Emmanuelli qui me dit ça. Une nuit, c'est Ségolène Royal aussi qui m'aborde dans l'hémicycle. Donc, voilà.
Révélation.
Voilà. Et puis après, je veux bien que vous me rendiez responsable des querelles entre M. Rocard, M. Mitterrand, M. Machin. J'ai le dos aussi vaste que l'océan Atlantique. Je prends, M. Cohen,
Question. J'emmène l'aiguillage à l'extrême droite. Ce week-end, le candidat Éric Zemmour...
J'avais des combats politiques avant, hein, M. Cohen. Hein. Donc il est facile d'identifier mes valeurs avant cette erreur de vote...
Du discours général d'Edouard Balladur.
Voilà.
Ce week-end, donc, le candidat Éric Zemmour a appelé à l'union des droites, après le ralliement de Gilbert Collard, Jérôme Pelletier et Jérôme Rivière. Il était à Cannes, d'abord au marché, et puis en meeting.
Des années que vous m'entendez parler de l'union des droites, de l'union du peuple de droite. L'union des droites, c'est tout à la fois... l'union des patriotes, l'union des Français qui se lèvent pour que la France reste la France. L'union des droites, c'est considérer d'abord que nous n'avons pas d'ennemis à droite. L'union des droites, c'est le refus du piège de la gauche. Je lance l'appel des victoires solennelles et joyeux, unissant nos forces.
Sur le plan de l'analyse froide, vous la pensez possible, cette union des droites, et sur le moins froid, vous la craignez?
En politique, je ne crains pas, je bataille, vraiment. Parce que je crois que la politique, c'est vraiment s'occuper de la vie des gens. Mmh. C'est vraiment agir, prendre des décisions qui ont des effets sur la vie des gens. Donc oui, j'observe évidemment avec la rigueur intellectuelle qui amène à analyser les choses et puis l'ardeur qui amène à se battre une fois qu'on les a analysées. Mais ce que j'observe surtout, c'est une vraie porosité entre l'extrême droite et la droite républicaine.
Donc vous la pensez possible?
C'est pas moi qui la pense possible, ce sont ces gens qui la rendent possible. C'est-à-dire que lorsque des responsables de la droite républicaine glissent vers l'extrême droite, ce sont eux qui font la démonstration de cette porosité, ce sont eux qui font la démonstration que c'est possible. Et cette tentation existe depuis très longtemps. La dernière conscience de droite républicaine qui a alerté, c'était M. Chirac lorsqu'il parlait du cordon sanitaire. C'est la dernière fois qu'on a entendu très clairement une parole politique disant non, il y a une ligne entre l'extrême droite et la droite et cette ligne ne doit pas être franchie. Monsieur Chirac est un des derniers leaders de droite à avoir admis le principe d'un front républicain, me semble-t-il. Après ça, on a entendu les responsables politiques de droite dire non, la gauche...
Oui. C'est pour ça que vous n'acceptez pas de débattre avec Éric Zemmour?
J'ai jamais dit que je n'accepte pas de
débattre avec lui. Vous pourriez débattre avec lui.
Zemmour, si la règle... moi, je pense qu'en démocratie, on devrait réhabiliter un certain nombre de choses. Il faut un socle commun pour débattre. Il faut un socle commun. Il faut reconnaître un minimum pour débattre. Donc, moi, Aujourd'hui, ces personnes-là sont sur tous les plateaux. Ils sont installés dans le paysage politique. Je comprends bien qu'il n'est pas audible de dire, mais il n'y a pas d'engagement formel sur la démocratie. Il n'y a pas d'engagement formel sur la République. C'est quoi la République ? C'est que nous sommes différents et que nous vivons ensemble. C'est que nous sommes égaux et égaux en droit. Que nos libertés sont pour les mêmes. Nos obligations sont pour nous toutes et nous tous. C'est ça que dit la République. Nous sommes différents, mais nous avons un destin commun. Nous appartenons à cette République indivisible. Donc il faut un minimum. Il faut un minimum. La démocratie, elle dit quoi ? Qu'il y a des règles, il y a des institutions, qu'on doit les respecter. Il faut ce minimum-là. Je me rends compte que tout ça a été dilué. Que les uns et les autres peuvent venir s'exprimer, même si dans leur pratique et dans leurs propos, ils n'adhèrent pas à ce minimum. Bon, c'est un état de fait. S'il faut débattre, je débattrai, mais...
On a compris le message.
Ce sera... voilà, vous restez avec... joie.
Vous restez avec nous, c'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi.
Bonsoir Madame Taubira.
Bonsoir Monsieur Bouafsi.
Un député, La République En Marche, a agressé ce week-end après le vote du pass vaccinal.
Samedi, 38 000 personnes ont manifesté contre le pass vaccinal en France. Parmi eux, environ 250 personnes à Perpignan ont attaqué la permanence du député La République En Marche, Romain Gros. Le parlementaire est en réunion à ce moment-là. L'élu sort s'expliquer et veut échanger avec les manifestants quand la situation dérape complètement.
Très vite, la tension monte. Un premier homme tente de frapper le député.
Oh, tu l'as voté le pass ! Tu l'as voté le pass ! Tu l'as voté le pass ! Mais oh, oh, je parle, moi ! Oh, oh, je parle, la Chine ! Oh, Chine ! Oh, tu l'as voté le pass !
Arrêtez ! Arrêtez !
Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez !
Le député tente alors de se réfugier chez ce voisin lorsqu'il est frappé au visage.
Comme vous pouvez le constater sur ces images, un voisin s'est interposé pour protéger le député. Un manifestant va cracher sur le parlementaire, un autre va taper l'élu. Il va devoir se réfugier à l'étage avant d'être exfiltré. Ironie de l'histoire, Romain Gros n'a pas voté pour le pass vaccinal. Il n'était pas présent le jour du vote à l'Assemblée nationale. Face à cette violence, il répète qu'il n'a pas peur.
Regardez, ils ont cassé la vitre de notre voisin par leur violence. Ils ont entamé la pommette de notre voisin par un coup de poing sur lui. Moi, ils m'ont donné un coup de poing sur le menton. Je vous le dis, les yeux dans les yeux. Ces gens ne me feront pas peur et ils ne m'arrêteront pas dans mon engagement. Quand je vois ces comportements de barbares, ces gens ne méritent pas autre chose que les sanctions fermes, de la répression.
Depuis la mise en place du pass sanitaire en juillet 2021, les agressions sur les élus ont explosé. Plus de 534 faits sont directement liés aux mesures sanitaires, essentiellement des menaces contre les députés. Plus de 300 plaintes ont été déposées. La plupart du temps, et on l'avait déjà évoqué dans cet avou, on dénombre des menaces via des raids numériques mis en œuvre par des structures organisées, comme le groupuscule Vivi, démantelé la semaine dernière. Mais depuis la création du pass sanitaire, les violences sont devenues quasi quotidiennes et souvent physiques.
Ce député reçoit des centaines de mails par jour d'opposants au pass vaccinal. La plupart d'entre eux invitent au débat, mais certains sont menaçants. Il y est question de décapitation, de fusillade et d'explosion.
On va te tuer, alors que plutôt décapitation, voilà, j'en passe.
Dans un premier temps, on se demande d'ailleurs si c'est, voilà, si on n'est pas dans un cauchemar, dans un film. Est-ce que c'est vraiment ma voiture ? Est-ce que c'est... Il y a quand même... C'est la petite part de sidération.
Christiane Taubira, si vous aviez été députée aujourd'hui, vous auriez voté le pass vaccinal ?
Oui, non, mais enfin, avant ça, c'est quand même inadmissible. Enfin, je veux dire que c'est... Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de... C'est inadmissible. Et ce climat de violence n'est pas tolérable. Il n'est pas tolérable. C'est pas et puis en plus c'est vraiment alors c'est une agression physique qui est inadmissible contre toute personne élu ou pas élu, mais élu en particulier parce que simplement ils sont identifiables les élus et ils sont agressés en tant que tels et donc c'est la démocratie en fait qui est mise en cause. Ensuite, sur le pass vaccinal, je l'ai déjà dit, je n'ai pas de problème avec le pass vaccinal. La question pour moi, c'est d'une façon générale les restrictions de liberté. Et notamment le fait que, alors, je parle du pass vaccinal. Alors c'est rigolo parce que c'est chez vous que j'avais dit que...
Oui. Oui. Que vous n'aviez pas tous les éléments, que vous n'aviez pas tous les éléments pour donner une consigne vaccinale encore.
Ah non non non, c'est ce que vous chez aviez vous, dit. Non non, chez vous plateau, j'ai dit. Ah non non,
que vous ne disposiez pas tous les éléments pour donner une consigne vaccinale. Que c'était encore un peu tôt. C'est ce qui avait créé la confusion, Christiane Taubira.
Non, mais la confusion elle n'est pas venue de chez vous, puisque chez vous j'avais dit que les arguments des anti-vax étaient un tissu, un ramassis d'imbécilité. Oui. D'accord. Oui. Bon, donc moi, alors je sais bien que c'est devenu à la mode, que tout le monde parle, que tout le monde a des compétences, que tout le monde est machin, tout le monde peut critiquer par exemple la décision du président de la République sans avoir à ses côtés un comité de défense ou un comité scientifique pour le faire. Donc ce que je dis moi, et je l'ai dit et répété à plusieurs reprises, je n'ai aucun problème avec le vaccin. D'ailleurs quand j'étais chez vous, ça faisait déjà plus de 4 mois que j'avais pris ma deuxième dose. Bon, donc je n'ai aucun problème avec le vaccin. Non seulement je n'ai aucun problème avec le vaccin, mais je pense, et je le dis et je le répète, que le vaccin est la seule solution.
Donc vous
en tout cas, qu'est la meilleure. Qu'est la meilleure. Là, j'en suis à ma troisième dose depuis presque 2 mois. D'accord. Donc, ce n'est pas le sujet.
Et sur
que
le pass.
Je veux dire, oui. Sur le pass vaccinal. C'est pour ça que je fais la distinction, puisqu'on me chercherait la longueur de temps. Donc, sur le pass vaccinal, je l'ai dit aussi, je n'ai pas de problème avec le pass vaccinal. Ce qui m'interroge... notamment en tant qu'ancienne garde des Sceaux, mais en tant que personnalité
très attachée. C'est les restrictions de liberté.
Les restrictions de liberté. Là, depuis, il y a une décision du Conseil constitutionnel.
Bon. Qui valide le pass vaccinal.
Moi, ce que j'avais dit avant la décision du Conseil constitutionnel, c'est que lorsqu'on restreint les libertés, il faut régulièrement demander au Parlement d'examiner si les conditions sont réunies pour le maintien de ces restrictions de liberté. Sinon, ces restrictions de liberté s'installent dans le droit commun et on continue avec. Surtout qu'il est très, très difficile de revenir sur les restrictions de liberté. Donc moi, ce que je dis, le pass vaccinal, puisque, en fait, le pass vaccinal, c'est une obligation vaccinale.
Oui.
Bon. Moi, j'aurais été aux responsabilités à la magistrature suprême. D'abord, je n'aurais pas pris un conseil de défense, mais j'aurais constitué un conseil scientifique et de santé publique.
Il existe.
Et de santé publique.
Il existe, le conseil.
Il existe, mais il n'a pas le rôle du conseil de défense. Il n'a pas le rôle de conseil de défense, ses décisions sont consultatives ce conseil, oui, il n'exerce pas le rôle d'influence.
Heureusement. Vous voudriez que ce soit les scientifiques qui prennent les décisions ?
Non, non, mais ce que je veux dire, vous voyez bien que chaque fois que le président veut décider, il convoque le conseil de défense. Mm-hmm. Donc on n'est pas dans le même schéma qu'un président qui met, heureusement, le mandat du président de la République n'est pas impératif. Pas plus que celui des parlementaires. Donc, ce n'est pas un conseil de personnalité, aussi éminente soit-elle, qui doivent dicter les décisions. Mais le conseil d'un conseil scientifique et de santé publique n'est pas le même, en termes de compétences et de ressources, que celui d'un conseil de défense. Bon. Donc, moi, je pense que le président aurait pu prendre la décision d'une obligation vaccinale. Il choisit un pass vaccinal avec des aménagements, etc. Il faut une politique de santé publique. Et notamment sur les vaccins, sur les personnes non vaccinées, c'est l'INSERM qui indique que 40% des personnes non vaccinées n'ont simplement pas accès au vaccin, soit parce qu'elles ne sont pas en situation de prendre des rendez-vous.
Pour résumer, vous auriez été pour une solution encore plus contraignante. Si vous prenez l'obligation vaccinale plutôt que le pass vaccinal...
Pour les éléments, je répète, je n'ai pas le conseil. Oui. Alors ça m'a encore choqué, mais je n'ai pas le conseil de défense à mes côtés. Chaque fois qu'il faut prendre une décision, je n'ai pas non plus le conseil scientifique. Mais tirant logique de la décision que prend le président, il semble qu'il vaille mieux imposer le vaccin parce que immunité collective, parce que etc. Et surtout surcharge des hôpitaux. Il semble qu'il fallait faisons-le franchement. D'accord. Je suis candidate à l'élection jusqu'à la primaire de dimanche. Je me projette davantage là à ce niveau de responsabilité que dans l'hémicycle en train de voter le pass vaccinal. Donc s'il vaut mieux contraindre, contraignons. Contraignant, en expliquant.
Merci beaucoup Mohamed. À tout à l'heure pour la Story Média. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir Mathieu sans jingle.
Bonsoir à tous et à tous.
C'est une arrivée solennelle et en silence. On commence avec l'Ukraine. La France déconseille les voyages non essentiels.
Oui, les États-Unis ont ordonné l'évacuation des familles de diplomates à Kiev. L'Angleterre retire une partie de son personnel d'ambassade. Washington affirme que la situation peut se détériorer à tout moment. Voilà plusieurs mois que Moscou provoque l'Ukraine et l'OTAN derrière, plaçant des troupes le long des frontières. On parle de 100 000 hommes. Et voilà plusieurs semaines que des discussions se tiennent entre Russes et Américains. Les ministres européens des Affaires étrangères se parlaient aujourd'hui, mais l'Europe a ostensiblement été laissée de côté sur ces discussions. Marginalisation assumée. Écoutez ce que disait le vice-ministre russe des Affaires étrangères il y a quelques jours. Si nous y impliquons d'autres pays, nous allons tout simplement noyer tout cela dans des parlotte et du verbiage. Christiane Taubira, chef des armées, seriez-vous dans la même position attentiste? On ne bouge pas si les Russes ne bougent pas. Ou est-ce qu'il faut tordre le bras de Vladimir Poutine pour qu'il cesse ses provocations?
Mais c'est juste inadmissible que juste le semestre où la France préside l'Union européenne, que l'Union européenne ne participe pas à ces discussions. C'est juste inconcevable. Moi, je ne l'aurais pas imaginé une semaine avant. Je ne l'aurais pas imaginé. Donc, il y a eu le format Normandie qui a été mis en place par François Hollande, à l'initiative de François Hollande, évidemment, parce que l'Allemagne, Mme Merkel, s'est impliquée très fortement. Ce format Normandie avait permis de sortir de la crise.
Et Poutine n'en veut plus.
Aujourd'hui, oui, Poutine n'en veut plus, mais la diplomatie, ça sert à quoi? Ça sert justement à faire en sorte que on établisse des rapports de force.
Pas forcer un dirigeant comme Vladimir Poutine à faire ce qu'il ne veut pas faire, Christiane Taubira. Les Allemands et les Français sont revenus plusieurs fois à la charge et Moscou a dit non, on ne fait plus de format Normandie.
Je suis d'accord avec ce que vous dites. Ponctuellement, non. Et c'est ça tout l'enjeu de la diplomatie. La diplomatie, ce n'est pas au moment de la crise qu'on vient bouleverser le rapport de force. La diplomatie, et la France a un extraordinaire réseau diplomatique dans le monde. La France siège au Conseil permanent de sécurité. La France a un prestige absolument incontestable. C'est cette diplomatie-là. Donc la préparation de l'Union européenne, je veux dire que la crise, elle n'est pas d'aujourd'hui non plus. On ne peut pas dire qu'on ne pouvait pas anticiper, qu'il n'y avait pas un travail à faire en amont, qu'il n'était pas possible de commencer d'agir avec aussi bien ce soft power que l'implication des Nations Unies. L'organisation de solidarité, c'est ça la diplomatie.
Nous avons peut-être aussi cru que nous pouvions mettre l'Ukraine sous notre aile sans fâcher Poutine, que ce soit du côté de l'OTAN ou de l'Union européenne.
La question en diplomatie, justement. Enfin, la diplomatie, c'est pas un club de copains, justement. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire que la diplomatie, ça va bien avec les gens qui s'entendent bien, qui ont les mêmes valeurs, qui se respectent et qui se retrouvent. Non, la diplomatie est là justement pour qu'on parle avec les gens qu'on n'aime pas beaucoup, avec les personnes qui bloquent sur des choses qui nous paraissent essentielles, etc. Et c'est pour ça que je parle. Alors, moi, je suis choquée par le fait que l'Union européenne n'arrive pas à s'impliquer fortement et quand même que la France préside l'Union européenne à ce moment-là, c'est extrêmement gênant. Mais je suis en train de dire justement que ça ne nous tombe pas sous le nez là comme ça maintenant. C'est pas l'Ukraine, ça fait des années. On connaît la dimension du problème. On connaît tous les tenants aboutissants. On sait tout sur ce conflit. On sait tout sur ce conflit. Donc on ne peut pas faire comme si on est pris de court et qu'on découvre tout d'un coup que M. Poutine est obtus sur ces questions-là. On ne découvre pas ça tout d'un coup. Mais en amont, qu'avons-nous fait?
On passe à des questions de Français qui se sont adressées à vous, Christiane Taubira.
Oui, les questions d'écologie reviennent depuis vendredi, par exemple, sur le hashtag C'est à vous, ce qui va des carburants, voitures électriques, thermiques, à la question de Diane sur l'environnement et comment on sensibilise les enfants dans les programmes scolaires, l'alimentation, l'agriculture, ou encore, tiens, Cara, qui a une question précise à vous poser.
Je m'appelle Cara Jeunet, j'ai 20 ans et j'ai une question concernant l'écologie. Va-t-on sortir du nucléaire? Et si oui, comment?
Alors, oui. Je réponds tout de suite à
vous.
Oui, bien sûr. Merci, Clara. Cara, pardon. Cara, c'est joli. Oui, c'est inhabituel. Alors, la question du nucléaire est une question extrêmement complexe et lourde. Et c'est une question sur laquelle j'ai dit que moi, j'estime qu'il faut mettre de la démocratie, il faut injecter de la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut permettre que les Françaises et les Français s'expriment.
Donc, un référendum
sur la sortie du nucléaire. Moi, j'ai donné mon point de vue. Voilà, je ne suis pas favorable au nucléaire. Je trouve que l'énergie nucléaire dans notre mix énergétique occupe une place trop importante, 70%. Et ceci étant, c'est à peu près 20% de notre consommation, parce que nous restons encore très très dépendants du pétrole. C'est 20% de notre consommation. Donc dans notre production, il y a ces 70%.
Du total de dépenses énergétiques, mais pas de production d'électricité.
Oui. Non, voilà, c'est 70% de la production d'électricité. Et 26% d'énergie non renouvelable. d'énergie renouvelable, pardon.
Donc référendum non, pour voilà, cette question.
C'est-à-dire que moi, j'y suis défavorable. Voilà. La question aujourd'hui, le problème, c'est que c'est une énergie qui n'est pas carbonée.
Qui n'est pas carbonée. Voilà.
Mais qui a ses inconvénients. Ce sont les déchets radioactifs, ce sont les risques industriels, c'est aussi quand même l'approvisionnement en matières premières, quand même. C'est un vrai sujet. Donc, moi, j'exprime mon point de vue, mais je sais bien que la situation est complexe. Tant mieux pour ceux qui disent c'est comme ça qu'on fait, qu'on tranche. Moi, ce que je note, c'est que l'Agence de sûreté nucléaire dit elle-même que, d'abord, une nouvelle centrale, c'est 15 ans de construction après la décision, à partir de la décision prise. On ne sait pas exactement aujourd'hui si la durée de vie des centrales peut aller au-delà de 40 ans. On pense peut-être jusqu'à 50 ans et on regarde, mais c'est dans 5 ans qu'on saura si ça peut aller au-delà de 50 ans. Bon, on voit bien que ça n'est pas simple. Moi, je suis très claire là-dessus. Je ne suis pas favorable à cette énergie. Les éléments que nous aurons grâce à l'Agence de sûreté nucléaire et aux autres éléments fournis par RTE, entre autres, nous permettront de voir où nous en sommes. Simplement, il est clair qu'en termes de transition, c'est l'énergie qui nous permet de réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Que les personnes pauvres
n'aggravent pas la situation. Elles ne participent pas au fait que nous allons probablement dépasser 1,5 degré Celsius de réchauffement.
Alors, une autre thématique qui revient et qui a été évoquée ici même déjà, beaucoup de questions et de remarques sur le pouvoir d'achat. Martine à Nantes nous a parlé du revenu de base et de prix de l'énergie. Géraldine, sur le hashtag C'est à vous, qui nous parle de la précarité en France d'une manière un peu générale. Écoutez la question d'Alice, elle est retraitée, elle a 72 ans, elle est à Paris.
Alice, 72 ans. Madame, je voudrais savoir ce que vous comptez faire pour les petites retraites et les petits salaires.
Alors, sur les retraites, alors je comprends que je n'ai pas le temps de développer entre la retraite paramétrique et la retraite
systémique. Non, il faut faire
etc.
des réponses.
Voilà. Alors, très clairement.
Courte et efficace, c'est clair.
Minimum de dignité, une retraite, 1 000 euros. 1 000 euros, le minimum de retraite. Les personnes qui ont travaillé toute leur vie au SMIC, le SMIC, minimum de retraite. Et puis il y a sinon les allocations de solidarité. Mais c'est un minimum décent, les 1 000 euros.
Alors pour Sébastien, sur le hashtag C'est à vous, vous avez incarné une avancée dans les droits des personnes homosexuelles en France avec le mariage pour tous. Quelle est votre position sur la GPA, la gestation pour autrui aujourd'hui ?
Alors la gestation pour autrui, très clairement, est interdite dans notre code civil. Pour ma part, je sais que c'est un sujet extrêmement lourd aussi. À l'époque, d'ailleurs, le sujet avait été mis dans le débat public. J'avais écrit une lettre très clairement en disant que il y a une GPA qu'on appelle. Je ne sais plus comment on s'appelle. Il y a une GPA de solidarité. Mm-hmm. Hein? Et puis, mais il y a un commerce de GPA. Il y a un commerce de gestation pour autrui. Donc, moi, j'entends. La gestation pour autrui dans une relation qui n'est pas une relation mercantile. Je constate qu'il y a des pays encadrés. Non, pas du tout. C'est un débat beaucoup plus lourd que ça. Non. Je fais très attention à ce que je dis simplement parce qu'il y a des enfants qui sont nés de GPA et que je ne voudrais pas qu'un quart de virgule de mon propos soit vécu comme une agression contre ces enfants. Sur la GPA, gestation pour autrui, autorisée et légalisée en France, non, le sujet est beaucoup plus lourd. Et j'allais dire que dans le rapport mercantile, je constate que ce sont des pays du Nord qui souvent sont en capacité d'aller le faire pratiquer dans des pays du Sud et que ça n'est pas un sujet anodin.
Merci beaucoup Christiane Taubira d'avoir été ce soir notre invitée spéciale élection présidentielle. Dans un instant, Isabelle Huppert, Philippe Besson sont nos invités du dîner. Restez avec nous. À tout de suite.